stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I stay, it will be double. So you gotta let me know. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'écho des jeunes, votre émission mensuelle préférée en ce mois d'avril. Un programme chargé aujourd'hui. Nous allons parler de Julien Assange avec Clément. Bonjour Clément.
Oui, bonjour Antoine.
Nous parlerons ensuite avec Julie de Koh-Lanta, une candidate du jeu de télé qui est originaire de la Nièvre. Vous aurez ensuite droit exclusivement dans cette émission, de manière inédite j'ai envie de dire, à un petit micro-trottoir que nous avons réalisé avec Maëlie, qui est au lycée Raoul Follereau, et s'en suivra un texte qu'elle a écrit également. Milouane, bonjour Milouane.
Bonjour Antoine, bonjour Ken Ploum.
Tu nous parleras ensuite de la politique anticorruption au Vietnam.
Ouais, c'est un sujet un petit peu, je pense, intéressant quand même.
Donc, et d'utilité publique, j'ai envie de dire.
Exactement.
Et enfin, Antoine nous parlera de la situation au Nord Kivu, ou au Kivu tout court d'ailleurs. Mais pour commencer, qui est ce Julien Assange, Clément ?
Bien oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des personnalités les plus clivantes du début du XXIe siècle. Certains le voient comme un héros, tandis que d'autres le voient comme un paria. Vous avez sûrement entendu ce nom quelque part, je parle du célèbre cybermilitant Julian Assange.
Le fondateur du site Wikileaks, Julian Assange, a donc été arrêté à Londres. C'est ce qu'a fait savoir en fin de matinée la police britannique.
Bon, déjà, présentons le personnage. Julian Assange est un Australien qui a 53 ans. D'ailleurs, Assange est le nom de famille de son beau-père, étant donné qu'il n'a jamais connu son père biologique, John Shipton. Très vite, il découvre une passion pour le piratage informatique, dit le hacking. Il est considéré comme un hacker éthique, c'est-à-dire qu'il ne détruit rien et agit dans le but de la connaissance pour renforcer la sécurité. Pourtant, en 1991, il est repéré dans une attaque contre un serveur australien de Nortel 16, une multinationale de télécommunications. Poursuivi en justice, il plaide coupable en 1996 et est condamné à une faible peine, payé 2 100 $ australiens de dommages et intérêts. En 2006, il fonde le site internet qui le rendra célèbre, Wikileaks. Wiki est directement inspiré de l'encyclopédie en ligne Wikipédia, et Leaks veut simplement dire fuite en anglais. Sinon, en quoi consiste ce site internet ? Eh bien, Wikileaks divulgue des documents confidentiels et des fuites d'informations provenant de sources anonymes. Son objectif principal est de promouvoir la transparence gouvernementale et de rendre publiques des informations qui pourraient être d'intérêt public, mais qui sont souvent cachées ou censurées par les gouvernements ou encore d'autres entités puissantes. Wikileaks utilise des méthodes de cryptage et de protection des sources pour permettre aux lanceurs d'alerte de partager des informations en toute sécurité. Au fil des ans, Wikileaks a publié des documents sur une multitude de sujets, allant de la violation des droits de l'homme et de la loi internationale à la corruption politique, aux secrets diplomatiques et aux abus de pouvoir. Mais parce que tout n'est jamais parfait, le problème avec Wikileaks, c'est que le site a déjà divulgué tellement d'informations confidentielles que beaucoup détournent ces mêmes informations. Par conséquent, Wikileaks est aussi un terrain de prolifération des théories du complot. Dans les plus notables, il y a celle sur les extraterrestres. Des documents divulgués par l'organisation ont parfois été interprétés par certains comme des preuves de la dissimulation de la présence d'extraterrestres ou d'autres phénomènes paranormaux sur la planète Terre. Dans les secrets d'État les plus connus divulgués par Wikileaks, il y a évidemment l'affaire Snowden. Edward Snowden est un lanceur d'alerte américain qui a travaillé comme consultant pour la National Security Agency, dit la NSA. En 2013, il a publié des milliers de documents confidentiels à plusieurs médias, révélant l'ampleur des programmes de surveillance de masse menés par le gouvernement américain et ses partenaires internationaux. Ces documents ont mis la lumière sur des programmes tels que PRISM qui permettaient à la NSA et à d'autres agences de renseignement d'accéder aux données personnelles des utilisateurs de grandes entreprises technologiques telles que Google, Facebook ou encore Apple, ainsi que d'autres programmes de collecte de données à grande échelle. Snowden a été inculpé pour espionnage par le gouvernement américain. Wikileaks, et plus précisément Julian Assange, ont non seulement donné de la résonance à Edward Snowden, mais ont aussi organisé toute sa cavale, c'est-à-dire de sa fuite périlleuse des États-Unis vers la Chine et de la Chine à la Russie, où il vit encore. Mais en affaire notable, il y a aussi l'affaire Chelsea Manning. Chelsea Manning, une ancienne analyste des renseignements de l'armée américaine, a divulgué des centaines de milliers de documents confidentiels à Wikileaks en 2010. Parmi les documents divulgués figuraient des câbles diplomatiques, des rapports militaires et des vidéos classifiées, notamment la célèbre vidéo Collateral Murder, montrant une attaque de l'armée américaine en Irak qui a tué des civils, dont plusieurs journalistes. Manning a dénoncé ce qu'elle considérait comme des violations des droits de l'homme, des abus de pouvoir et des actions militaires discutables de la part du gouvernement américain. Elle a affirmé que sa motivation pour divulguer ces documents était de révéler la vérité au public sur les actions de son gouvernement, ainsi que de susciter un débat sur les politiques étrangères et militaires américaines. En conséquence de ces actions, Manning a été condamné en 2013 à 35 ans de prison pour espionnage. Maintenant, il serait temps d'expliquer pourquoi je fais une chronique sur Julian Assange. Eh bien, il est accusé par le gouvernement américain pour plusieurs chefs d'accusation que je vais vous énumérer. Le premier est l'espionnage. Assange est accusé d'avoir conspiré avec Chelsea Manning pour obtenir et publier des documents classifiés appartenant au gouvernement américain, ceux dont je viens de vous parler. Le deuxième chef d'accusation est le piratage informatique. Il est également accusé d'avoir aidé Manning à pirater un ordinateur gouvernemental pour obtenir ses documents confidentiels. Le troisième chef d'accusation est la violation de la loi sur l'espionnage. Assange est accusé d'avoir publié des informations classifiées qui auraient mis en danger la sécurité nationale des États-Unis. Et enfin, le quatrième et dernier grand chef d'accusation est la conspiration en vue de commettre un piratage informatique. Il est également accusé d'avoir conspiré, toujours avec Chelsea Manning, pour obtenir illégalement des informations classifiées. En 2012, l'Équateur lui donne un titre de séjour pour échapper au jugement. Il passa 7 ans, je dis bien 7 ans, dans le même bâtiment, c'est-à-dire l'ambassade de l'Équateur à Londres. Mais en 2019, son asile est révoqué et il est arrêté par la police britannique. Les autorités américaines révèlent alors qu'elles ont également émis un acte d'accusation contre lui. En 2021, une décision de justice britannique rejette la demande d'extradition des États-Unis en raison de préoccupations concernant la santé mentale d'Assange et le risque de suicide s'il était envoyé dans une prison américaine. Cependant, les autorités américaines ont fait appel de cette décision. Depuis lors, Julian Assange est incarcéré dans une prison britannique. Mais coup de poker, ce 11 avril 2024, le président américain Joe Biden a annoncé qu'il examinera personnellement le dossier Assange. Alors je terminerai cette chronique avec un message très simple, Free Assange. Pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression, je le redis une dernière fois, Free Assange. On se retrouve dans quelques minutes avec l'interview de Julie de Koh-Lanta, mais avant ça, je vous propose d'écouter I Love It, une chanson de Camila Cabello en featuring avec Playboi Carti. Merci de m'avoir écouté. Supersonic, hero of it, and embedded, diabolic, battle rocket, on the carpet, threw it back, and he caught it, I go soprano, baby go down low, and when he leads, I gotta follow, I'm blacking out, I'm on a spiral, I need you now, and tomorrow.
Like the sun, I feel. Victoria, SVJ, I'm riding around with her perm out. Vincent Hoyle, SVJ, I'm riding around with her perm out. Pink cuts the big worm out. How the fuck got the charm out? I went to her like clam out. Little nigga fake down, fuck around, bitch nigga gon' find out. I hope you know you need a flashlight, try to follow around that hoe. Told you like, hell, 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 I'm out of control. She says I'm way too young, way too young.
De retour dans l'écho des jeunes sur Bac FM 106.1 pour discuter avec une invitée nivernaise que l'on peut actuellement voir sur le petit écran aux côtés d'une multitude d'aventuriers. Bonjour Julie.
Bonjour Antoine.
Alors, pour résumer, Koh-Lanta, c'est une émission de télé-réalité française créée en 2001 dans laquelle des participants sont plongés dans un environnement sauvage et doivent s'affronter lors d'épreuves physiques et mentales pour rester dans la compétition et gagner les 100 000 euros ou les 100 patates, comme vous aimez le dire. Julie, vous êtes artisan taxi, c'est comme ça que vous décrit l'émission. Vous avez deux enfants et surtout vous êtes nivernaise. Pourquoi vous avez décidé de tenter l'aventure Koh-Lanta ?
J'ai décidé de tenter l'aventure Koh-Lanta parce que j'aime les défis. J'aime le sport extrême, j'aime les challenges et je voulais surtout pouvoir voir mes limites, voilà, et laisser le téléphone 50 jours et sans patate. Sans patate, c'était une belle motivation.
C'est vrai que c'est une très belle motivation. Comment se sont passées les inscriptions au niveau des délais, des sélections, des étapes ? Est-ce que ça a été long ? Comment ça s'est passé ?
Le casting, un casting en plusieurs étapes en fait. Donc, parce qu'à la base, comme vous le savez, il y avait 35 000 personnes quand même qui ont postulé et essayé de tenter l'aventure. Donc c'est un casting en plusieurs étapes. C'est d'abord un mail, des photos, ensuite un appel téléphonique, ensuite un appel vidéo. On voit des médecins, des tests sportifs, c'est vraiment... Rien que le casting est déjà une aventure propre en lui-même.
Ouais.
Donc déjà, rien que ça, c'est déjà excitant et palpitant, rien que de le faire, en fait.
Ouais, vous êtes déjà testé sur vos limites et puis sur physiquement, vous êtes accompagné là-dessus, ouais, pour avant l'aventure.
Pas trop sur nos limites, mais sur notre santé physique.
Okay.
Voilà, ce qui est normal, en fait.
Oui. Et ensuite, de votre départ en France jusqu'à la rencontre avec les autres aventuriers, comment se déroule est-ce qu'une fois sur l'île, vous êtes directement plongé dans l'aventure ou est-ce que vous avez quelques étapes avant pour vous habituer à l'environnement ?
Non, en fait, on a quelques étapes avant parce qu'on n'arrive pas et paf, on a...
Ouais.
Voilà, mais on ne se connaît pas, on ne se rencontre pas. Voilà, c'est vraiment purement l'aventure avec des gens qu'on ne côtoie pas du tout avant et qu'on n'aurait sûrement pas côtoyé dans la vie réelle.
Et comment s'est passée cette rencontre alors avec les candidats ? Parce que c'est vrai que dans l'émission, on voit la partie filmée et montée, mais vous, comment vous avez ressenti ça, la rencontre avec tous ces inconnus qui sont venus tenter l'aventure ?
La rencontre avec les autres, pour moi, c'est un jeu, donc je vais en toute connaissance de cause, donc... Après j'analyse beaucoup, je regarde beaucoup. Pour ma part, je suis pas quelqu'un qui fait copine rapidement. Je suis quelqu'un qui peine à faire rentrer dans mon cercle d'amis proches des gens. Donc je suis quelqu'un qui analyse, qui regarde, comme vous avez pu le voir à l'écran, quoi. C'est ça.
Ok. Oui, c'est fidèlement retranscrit alors.
Oui.
Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore en contact avec certains des candidats ? Est-ce que vous êtes resté en contact ?
Oui, bien sûr. Ah oui, on est en contact et à l'avant-première, on s'est tous revus.
Ok, donc, ouais, ça a vraiment tissé des liens solides.
Ah oui, après, puis c'est une aventure inoubliable, donc oui, forcément.
Et alors sur l'aventure en elle-même, alors on va rien spoiler, je précise à nos auditeurs qui pourraient être inquiétés, on ne va pas parler ni des éliminés d'avant ni d'après. Mais vous, côté stratégie, comment vous vous définiriez ? Est-ce que vous avez regardé les saisons d'avant pour vous préparer ?
Moi, pour être honnête, j'avais jamais vu Koh-Lanta avant. J'ai pas le temps de rester devant la télé, je suis chef d'entreprise avec deux enfants. Donc en fait, j'avais rien anticipé vu que je connaissais rien. Ni les jeux, ni les façons stratèges, ni après. Bon, je suis chef d'entreprise, je travaille qu'avec des gens malades, donc je suis obligée de m'adapter à divers publics.
Ouais.
Que ce soit du haut fonctionnaire au, excusez-moi du terme, mais cas sociaux, voilà. Donc je suis obligée de m'adapter et de prendre les gens comme ils sont. Donc j'ai essayé de faire pareil sur le camp.
Ok, ouais, en total impro, sans
voilà,
préparation.
C'est ça.
Et vous qui vous êtes inscrit ou c'est quelqu'un de votre approche qui vous a inscrit à l'émission alors ?
Non, c'est moi qui me suis inscrit. Hein.
Okay.
Ma réelle motivation était de plus avoir mon téléphone. Mon téléphone sonne à outrance et pour tout, pour rien. Donc ma réelle motivation, c'était le téléphone, les 100 patates, souffler un grand coup, voilà. Et c'était une aventure très égoïste en fait que j'ai fait.
Et alors ce téléphone, il vous a manqué durant l'aventure ou ça allait?
Pas du tout.
Ouais.
Pas du tout, je vous assure.
On a vu l'émission dernièrement où vous avez pu appeler vos proches et vous aviez l'air de trouver ça normal. Vous parliez à vos proches comme si tout allait bien. Cette distance, elle vous a pas plus impacté que ça avec vos proches?
Ni moi ni mes proches, non. Peut-être plus mes parents, mais mes enfants pas du tout. Non, ils sont habitués, puis ils étaient contents. Enfin, ils sont contents quand je suis là, et puis là. Bon, je leur avais dit que j'allais faire un autre jeu télévisé, que j'allais faire Pékin Express, parce que moi, ils étaient au courant de rien du tout. Okay. Donc, non, maman est partie faire une aventure, elle revient. Du moment, moi, enfin, si j'avais pleuré, je les aurais inquiétés. Ouais. Vous comprenez?
Ouais,
parce que
ouais.
Là, ils ont senti que maman allait bien, eux allaient bien, à leur voix, j'entendais que tout le monde allait bien. Donc, pas de stress,
tout va
pas
bien,
d'inquiétude. Ouais. Voilà, on continue, je suis là pour ça, et puis voilà, quoi.
Ok. Et aujourd'hui, est-ce que vous regardez avec eux l'émission? Est-ce que vous regardez les émissions dans lesquelles vous êtes?
Ah oui.
Ouais.
Aujourd'hui, on les savoure, les émissions. Ah oui, on les regarde et on couche tard. Et... oui, là, ils en loupent pas une miette, oui.
Et alors, moi non plus. Vos proches, comment ils ont réagi du coup en vous voyant dans l'émission? Ils étaient surpris, ils étaient contents?
Très surpris, très contents, et du coup, eux aussi deviennent... grand fan de Koh-Lanta, donc c'est bien, mais ils ne savent rien, j'ai rien spolié, donc ils ne savent rien, donc, mais ils essayent de tenter des questions, mais non.
Ah bah...
Non, il faut découvrir, c'est le mieux.
Ah bah oui, c'est comme une série de toute façon, ouais,
c'est ça,
c'est le suspense.
C'est une série d'aventure.
Sur le camp, est-ce que le... Parce que Koh-Lanta, c'est quand même très physique et très mental, hein, entre le manque de nourriture, de sommeil, la distance avec les proches, on en parlait, et même l'hygiène. Est-ce que votre état mental était comme vous vous y étiez préparé, ou est-ce que vraiment c'était beaucoup plus dur que ce que vous pensiez?
En fait, je m'attendais à rien. J'y suis allée vraiment, vraiment aventure totale, quoi. Après, moi, ce qui m'a fait très bizarre, c'est le cardio, s'excite vraiment entre la chaleur, le manque de nourriture. En fait, dès que vous vous levez, vous avez la tête qui tourne, vous ressentez vraiment votre corps différemment. Voilà, ouais. Moi j'ai déjà poussé mon corps à la fatigue, mais jamais à la famine. Et là, c'est vrai que la chaleur, le manque de nourriture, plus faut être actif sur le camp parce qu'il faut trouver à manger, il faut aller chercher du bois, plus après les challenges, eh bien c'est beaucoup, mais le corps humain est une machine qui s'adapte vraiment très vite. Donc même si on a des faiblesses, eh bien ça, on s'adapte, quoi.
Ouais, c'est, il y a un côté instinctif qui ressort et il faut plus réfléchir, quoi.
Oui, c'est ça. Après, je pensais tout le temps à la nourriture. Ah oui.
Bah oui.
Oui, la nourriture donnait vraiment envie sur les épreuves de confort.
Ouais, même en tant que spectateur, on les voyait et c'est vrai que les pizzas et tout ça donnaient bien envie. Donc j'imagine avec un état de faim en plus de famine, ça devait bien donner envie. Et justement, dans ce côté aventure et état mental et physique, est-ce que vous avez eu peur pour votre vie durant cette aventure? Est-ce que vraiment vous avez eu un moment peur pour de mourir ou d'être blessé?
Non, jamais. J'ai jamais eu peur pour ma vie dans l'aventure.
Non. Tout est bien encadré de toute façon pour ça.
Tout est très bien encadré. On a un médecin, tout est vraiment fait pour qu'on vive l'aventure pleinement sans non plus se sentir en danger.
Ouais.
Voilà, après, il faut réfléchir aussi, et puis l'instant, quoi.
Parce que c'est vrai que aussi à la télévision, on remarque des bêtes sauvages, des araignées et tout ça, et donc on se demande même si ça fait pas peur, des espèces invasives comme ça. Mais vous en avez pas forcément vu, ou on était victime?
Bien sûr, on en a vu. Après, quand vous faites ce genre d'aventure, vous partez en connaissance de cause. Si vous partez alors que vous avez peur des bêtes, pour ma part, pour le coup, c'est un peu bête.
Oui.
Parce que vaut mieux partir en étant tout YouTube, et puis vous faites gaffe quand même. Vous dormez bien enfermé, vous faites attention, vous dormez près du feu. Enfin, vous voyez, après, il y a des choses de logique aussi à appliquer quand vous êtes en survie, quoi.
Oui. Et alors pour glisser plus vers le côté émission, on voit beaucoup et on entend beaucoup dans l'émission Denis Brognard, le présentateur star de l'émission. Mais vous, en tant que candidate, est-ce que vous le voyez souvent ou est-ce que vous le voyez uniquement pour les séquences filmées comme le conseil ou les épreuves?
Non, Denis est là pour le conseil et les épreuves. Voilà. Denis est quelqu'un de très présent. Voilà. Mmh. Après, non, ils partagent pas avec nous la vie du camp. Là, c'est notre aventure en tant qu'aventurier. Mais Denis est quelqu'un de très bien, très droit, et il met vraiment l'animation sur Koh-Lanta, quoi. C'est vraiment... On voit que c'est... Enfin, il a toujours les bons mots, les bonnes réparties, la bonne petite phrase, enfin, qui pique ou pas, mais... Voilà, un vrai chef d'entreprise, quoi.
Une très bonne rhétorique, puis ouais, presque poète, des fois... dans ses voix off et ses commentaires des épreuves. Et donc, bon, l'émission, on ne va pas plus s'attarder dessus, puisque, enfin, je veux dire, la saison, puisque on tomberait dans peut-être le spoil. Mais aujourd'hui, après avoir fait cette émission, toute cette visibilité qui vous est tombée dessus, soudainement, est-ce que ça a changé votre vie? Est-ce que vous êtes accompagné pour gérer cette visibilité, justement?
Oui, on est accompagné par la production, bien sûr. Mmh. Après, vous dire que ça a changé ma vie, pour le moment, non. On verra par la suite, mais pour le moment, non, c'est sûr que les gens me reconnaissent plus facilement dans la rue. Voilà, je fais facilement des photos, ça c'est mignon. Voilà, les enfants, les adultes, enfin, c'est mignon, c'est gentil.
Oui, ça vous dérange pas d'être connu, ouais. Et des clients vous reconnaissent aussi?
Ah, les clients, beaucoup, et par contre, mes salariés, eux, en ont marre le mercredi qu'on leur parle que de Koh-Lanta, Koh-Lanta, Koh-Lanta. Mais non, c'est rigolo, quoi. Après, ils sont... Non, c'est bien. Et puis, c'est vrai que de par mon entreprise, moi, je faisais déjà beaucoup de pubs. Donc, en fait, pour le secteur, c'est bien. C'est que du positif.
Et cette visibilité, elle se retranscrit aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous regardez, vous, les commentaires que font les internautes? On a pu voir Moi, j'ai pu regarder un peu des gifs de vous disant tout YouTube, ou encore les 100 patates qu'ont marqué les internautes. Est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous suivez?
Non, je regarde vraiment Insta, mais sans regarder les commentaires. Après, tout ce qui est Twitter, je ne regarde pas. Tout ce qui est Facebook, je regarde très peu. Après, bon, souvent, ma famille, mes cousins, mes copines, ils m'en envoient. Voilà, où là, je peux lire un petit peu. Mais j'ai pas envie que ça me blesse. Vous savez, on peut pas faire à tout le monde. Donc, j'ai pas envie que ça m'impacte ou qu'après, voilà, là, je veux profiter de l'aventure à fond et pas du tout, voilà. Après, les toutous YouTube sans patates, c'était peut-être rigolo, là, pour le coup. Après, il y a un monsieur sur YouTube qui fait des parodies qui sont géniaux. Enfin, donc, là, oui, je regarde, mais sinon, non, j'essaye de me préserver un maximum.
Ouais, on peut vite se prendre la tête là-dessus, ouais.
Voilà.
Et pour finir, on a parlé donc de l'aventure, de l'avant, de l'après. On a déjà vu des saisons de Koh-Lanta où des anciens candidats retenter l'aventure pour une nouvelle saison. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous reverriez faire Koh-Lanta?
Ah, si on me le propose, oui, bien sûr. Okay. Sans hésiter.
Eh bien, super. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous dans l'Écho des Jeunes aujourd'hui.
Merci à vous. Bonne fin de journée.
Merci.
À bientôt sur TF1.
Et donc on rappelle que Koh-Lanta s'est diffusé tous les mardis soirs à 21h10 sur TF1. Avant de passer à la suite, je vous propose qu'on s'écoute Baby One More Time de Tenacious D avec Jack Black.
Sign.
De retour sur Bac FM 106.1 dans l'écho des jeunes. Et aujourd'hui, petite section inédite dans l'écho des jeunes, on accueille une petite nouvelle exclusivement pour cette émission. Maëlie, qui est en seconde à Raoul Folle Road, au lycée Raoul Folle Road à Nevers. On allait dans les rues du Banlais et dans les rues d'ailleurs dans les lycées Raoul Folle Road et Jules Renard pour demander aux lycéens et même aux intervenants adultes, pour eux, qu'est-ce qui les rendait heureux ?
Qu'est-ce qui vous rend heureux ?
Le soleil.
Être très riche et célèbre.
L'argent et l'amour.
La santé aussi. Et le bonheur. Ce sont deux choses essentielles.
Moi, mes amis.
Je dirais la sociabilité.
Qu'est-ce qui te rend heureuse ?
Le sport.
Bah, la passion. Dans mon cas, par exemple, la mécanique. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'adore faire, tout seul ou avec mon père.
Le printemps qui revient.
Le chocolat.
L'amour.
Bah, moi, c'est d'aller chercher mon pote tous les matins.
Personnellement, moi, c'est la nourriture, parce que c'est très bon, voilà.
Qu'est-ce qui te rend heureuse ?
Ma famille, mes amis et mes passions.
Les mangas.
Bien, moi, je dirais bien dormir, bien manger.
M'accomplir et passer un cap supérieur. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose jusqu'au bout, par exemple, j'ai pas du sport et qu'à un moment, tu réussis à aller encore plus haut, même si t'as pas forcément, et même si t'es pas forcément le premier, etc., t'as un bonheur immense et c'est génial. Et aussi, je pense être avec mes proches, voir qu'ils sont toujours là, qu'ils vont bien.
Mais alors toi, Maëlie, qu'est-ce qui te rend heureuse ?
J'entends souvent dire que le bonheur se trouve avec la personne que l'on aime. Je trouve pas cela totalement vrai. Le bonheur est une émotion que l'on éprouve dans tellement de moments divers. Je dirais qu'il faut savoir l'accueillir et en profiter un maximum. Le temps qu'il est là, sans jamais passer à côté. Le bonheur, c'est plein de petits événements à apprécier. Puis, la seconde d'après, un grand puzzle à assembler. Le bonheur est aussi présent dans les petites réussites personnelles. D'ailleurs, ce sont elles les plus importantes. Alors non, nous n'avons pas besoin de la personne que l'on aime pour sentir du bonheur. Je dirais que mes moments de bonheur sont plutôt simples, mais ils me conviennent. N'est-ce pas ça le plus important ? J'éprouve du bonheur le soir en rentrant chez moi quand mon chien me saute dessus alors que, bah, je suis en interdit. J'éprouve du bonheur à écouter mes parents discuter après une mauvaise journée. Mais également quand je vois le soleil se lever, quand j'arrive à prendre une belle photo de mon chien, quand je vois des inconnus être heureux et concentrés à chanter du Johnny à s'en casser la voix. Vous les trouvez peut-être nazes, mais moi, ils me conviennent, et c'est ça le plus important. Peut-être que je trouverai les vôtres nazes, ou au contraire bien, mais s'ils vous conviennent, alors c'est le plus important. Finalement, le bonheur, c'est plein de petits événements combinés qui forment un immense puzzle différent pour chacun.
Le bonheur est à la portée de tous, mais rien ne dit dans la rousse comment s'y prendre. Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses.
Qu'est-ce qui te rend heureux ?
Qu'est-ce qui me rend heureux ? Grosse question. Il y a à la fois à manger, lorsqu'il fait beau, le petit courant d'air, la brise de l'été.
Le fait de pouvoir faire exactement ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire, avec qui j'ai envie de le faire, et de façon générale, de pouvoir agir positivement autour de moi, d'être utile.
Moi, je pense que c'est les petits trucs du quotidien, genre un petit rayon de soleil, ou ouais, les amis, les gens. Je sais pas, tout me rend heureuse en fait, je pense.
Alors, ce qui me rend heureuse, je dirais que c'est le soleil, les beaux jours, la bonne humeur des copines aussi, c'est sympa. Avoir des bonnes notes, j'avoue que c'est vrai que ça rend heureuse quand même parfois quand on voit que notre travail paye, mais voilà, c'est déjà pas mal de choses. Et aller au hand aussi, c'est cool. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question.
La musique.
Ma vie conjugale avec mon mari depuis 23 ans et mes deux enfants qui me comblent de bonheur.
Qu'importe que tu ne sois pas ce footballeur qui palpe un million par mois. Tu roules en Porsche sur PS3. Qu'importe si tu n'aimes pas tes rondeurs, nous autres on les aime pour toi. Le bonheur n'est-il pas d'ailleurs dans les seins qu'on pétrit, dans les cartes qu'on complie, dans les cartes qu'on déplie? Le bonheur est à la portée de tous, mais rien ne dit dans la housse comment s'y prendre. Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses peuvent y prétendre. Qu'importe que tu ne sois qu'un loser sans Rolex à ton bras, l'important c'est ton bras. Qu'importe que tu ne sois pas cet acteur bankable de cinéma, le bonheur c'est pas ça.
Un grand merci à Maëlie pour ce beau micro-trottoir et ce beau texte lu en interlude de celui-ci. Maintenant, Miloane, tu voulais nous parler de la politique anticorruption au Vietnam.
Oui, c'est ça. Alors, s'il y a trois mots que vous devez retenir de ma chronique, c'est corruption, économie et Vietnam. En effet, je vais vous parler de sentences assez impressionnantes pour des crimes économiques et financiers. Donc, au Vietnam, dernièrement, il y a une femme d'affaires qui a été condamnée à mort pour détournement de fonds.
Ce matin, on évoque la condamnation à mort d'une haut placée dans l'immobilier au Vietnam.
Après un mois de procès, le tribunal de Ho Chi Minh Ville a rendu son jugement. La femme d'affaires Truong Milan, âgée de 67 ans, est coupable de corruption, violation de la réglementation bancaire et détournement de fonds, expose le quotidien vietnamien Thanh Nhien, qui précise qu'elle écope de la peine de mort.
À l'issue d'un procès XXL, l'ancienne mania de l'immobilier Truong Milan et 85 autres prévenus ont comparu pour répondre aux interrogations et à la colère de milliers d'épargnants lésés qui ont perdu leurs fonds presque du jour au lendemain. Considéré donc comme le cerveau de l'opération, Truong Milan a donc été reconnu coupable de détournement de fonds massifs. Ainsi, c'est pourquoi le 11 avril, un tribunal donc de Ho Chi Minh Ville, c'est-à-dire donc la capitale du Vietnam, l'a condamné à la peine capitale, c'est-à-dire la condamnation à mort. En effet, cette patronne du géant de l'immobilier Van Tin Phat a été reconnue coupable des trois crimes qui sont la corruption, la violation de la réglementation bancaire et également le détournement de fonds. Donc la femme d'affaires, elle s'est enrichie dans les années 1990 grâce à la spéculation foncière et également immobilière. Elle a d'ailleurs été arrêtée en octobre dernier pour avoir été accusée de détourner 304 000 milliards de dong, ce qui en euros revient à 11,5 milliards d'euros, même si certaines sources mettent en avant que c'est plutôt 25 milliards d'euros au total, c'est-à-dire le plus grand scandale financier qu'ait connu le Vietnam. Et donc ces détournements de fonds proviennent donc de la banque Saigon Commercial Bank pendant plus d'une décennie, et donc tous ces détournements de fonds, ça équivaudrait à peu près à 6% du PIB du pays en 2023.
Ah oui.
Une somme importante en effet. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est la question assez intéressante, je pense, alors que dans cette région du monde, on a de nombreux enjeux géopolitiques qui sont très clivants et très intéressants à exploiter, notamment comme dernièrement le sommet entre Washington et Tokyo pour renforcer la défense vis-à-vis donc de la Chine. Eh bien, je dirais que j'ai été interpellée tout d'abord par ce nouvel exemple de la vaste campagne anticorruption, nommée Fournaise Ardente depuis 2016, qui est conduite par le Parti unique communiste vietnamien. En effet, faute de transparence et de régulation efficace, le système bancaire vietnamien laisse la porte en fait ouverte à de puissants acteurs privés qui peuvent imposer leurs intérêts au détriment des épargnants. C'est pourquoi ces dernières années, le régime communiste a accéléré sa campagne anticorruption. Au nom de cette politique, alors, on a plus de 4400 personnes, dont des anciennes stars du monde des affaires et des ministres déchus, qui ont été poursuivies dans plus de 1700 affaires depuis 2021. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le nombre de tribunaux qui ont dû être mis en place, c'est assez énorme quand même. Et donc, aussi, ce qui m'a le plus particulièrement interpellée, c'est quand j'ai vu condamnation à mort. J'étais en train de lire la presse, un petit peu pour suivre l'actualité, tout ça, quoi. Et là, je vois condamnation à mort pour détournement de fonds. Et en fait, c'est tellement quelque chose dans nos sociétés plutôt occidentales qui, je pense, intervient très rarement ou pratiquement pas. J'ai trouvé que ça m'a frappée et je me suis dit, comment ça, condamnation à mort?
Ça existe encore?
Oui, ça existe encore. La chaise électrique, c'est quoi ça? Et donc c'est pour ça que je me suis renseignée un petit peu. Et donc la condamnation à mort, elle est en fait monnaie courante au Vietnam. Donc pour ces, soit des affaires de stupéfiants, donc la drogue, etc. Ou encore les crimes de sang. Donc meurtre, viol, et ainsi de suite. Même si, bon, la politique vietnamienne et donc les forces sur place ne réagissent très peu lors d'agressions sexuelles, etc. Donc si vous voulez voyager au Vietnam, n'y allez pas seul, mesdames. Mais donc, cette condamnation à mort, elle demeure assez rare quand même pour des délits ou des crimes économiques. Toutefois, les statistiques sur son application, elles sont classées secret d'État, donc c'est assez compliqué d'avoir donc des chiffres sûrs. Mais donc, l'association Amnesty International, elle estime que de nombreuses, et j'appuie bien le mot nombreuses, exécutions, en fait, elles ont lieu chaque année, et d'ailleurs de l'ordre de plus d'une dizaine par an. Donc voilà, c'est aussi également pour ça que ça m'a assez interpellée. Je me dis, donc attendez, il y en a 10 au moins par an, et on n'en parle que d'une seule. Donc bon... Mais après, ça se comprend, c'est le plus grand scandale financier qu'ait pu connaître le Vietnam. Mais donc, comment ça se fait qu'on en soit arrivé à une politique d'anticorruption assez pointue? Bah, c'est tout simplement parce que le régime autoritaire du Vietnam, donc avec à sa tête le parti unique communiste vietnamien PCV, il a besoin du soutien de des civils, en fait, pour avoir une légitimité. Et donc, vu qu'on a eu un quasi-effondrement de l'économie dans les années 1980 et qui a conduit en fait à une remise en question de la légitimité du pouvoir, en fait le parti communiste vietnamien a dû adopter une économie presque capitaliste, et donc ils sont conscients en fait tout simplement que la corruption, ça représente une grande menace pour la confiance du public et donc le soutien du parti à la tête. C'est pourquoi, pour sécuriser, si je puis dire, le pouvoir en place, le chef du parti Nguyen Phu Trong a lancé une campagne dont je vous parlais au départ, d'anticorruption agressive, nommée la Fournaise Ardente, depuis 2016. Dès lors, depuis 2016, on a environ 200 000 membres du parti à tous les niveaux du gouvernement qui ont été limogés, renvoyés du parti ou encore emprisonnés pour corruption. Donc initialement, cette campagne, elle a été très bien accueillie par le public pour contribuer donc à accroître la confiance dans la direction du PCV. Toutefois, avec les nombreuses dérives, ça laisse à tendre à des nouvelles manifestations au sein d'Hanoï ou de Ho Chi Minh Ville. Donc, c'était tout pour cette petite chronique sur l'économie et la corruption qui se passe donc dans le pays d'où je tire mes origines. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous laisse avec la musique My Blood d'Ellie Goulding. Doesn't go away, just did, and I walked 1,000 miles to prove it, and I'm caught in the crossfire of my own thoughts. The color of my blood is all I see on the rocks as you sail from me. And love's worry. Oh,
De retour sur Bac FM 106.1 dans votre émission mensuelle préférée, l'écho des jeunes. Antoine, tu voulais nous parler de la situation au Kivu.
Bonjour à tous, grands et petits de l'écho des jeunes. Rien ne me sert de vous définir car la jeunesse, ce n'est pas un âge. C'est un état d'esprit. Et si pour vous être jeune, c'est la retraite, eh bien qu'on s'y accorde. Je vais aujourd'hui vous parler d'une région du monde qui vit dans la violence depuis maintenant 30 ans, le Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo.
Sur cette colline, les miliciens du M23 tiennent leur position.
On les voit avec leurs armes. Ils ont des mitrailleuses 12.7.
Nous sommes à 3 km de la ligne de front, près du pont stratégique de Rwanguba, à 25 km de la frontière avec l'Ouganda. Depuis un mois, l'armée congolaise a renforcé ses effectifs pour contenir l'avancée des rebelles.
Commençons, car c'est essentiel pour comprendre la situation au Kivu, par parler des guerres du Congo. Contextualisons. En 1994, le Rwanda sort du terrible génocide et le nouveau président, Kagame, accuse les milices génocidaires Hutus de se réfugier au Kivu pour reconquérir le Rwanda par l'ouest. Si vous ne voyez pas, je vais vous faire une petite carte dans votre tête. Il y a à l'ouest du Rwanda la République démocratique du Congo, et donc en conséquent, eh bien, le Rwanda est à l'est de la République démocratique du Congo. C'est donc deux pays qui sont frontaliers. Donc, que décide de faire Kagame face au fait que les milices Hutus génocidaires se réfugient à l'est du Congo? Il décide d'envoyer une armée sur place. Alors, l'opposition accuse le Rwanda d'inventer ce prétexte pour juste piller les terres. Et c'est d'ailleurs cette version qu'adoptera l'ONU. En 1997, c'est le début de la première guerre du Congo qui oppose deux hommes, qui sont symboles de deux camps, le président Mobutu, qui est soutenu par les États-Unis, qui a été mis en place par les États-Unis durant la guerre froide pour faire face au nationalisme et au communisme congolais, s'oppose à Kabila, qui lui est un héritier de Patrice Lumumba, qui est soutenu par le Rwanda. Donc cette guerre est terrible, il y a à l'aise de grands affrontements et le massacre de populations Hutus. Et même discuté par l'ONU le terme de génocide. Le rapport soulève, je cite, « des massacres délibérés et prémédités, la dispersion des réfugiés dans des zones inaccessibles et inhospitalières, le blocage systématique de l'aide humanitaire, le refus obstiné opposé jusqu'ici à toute tentative de mener une enquête impartiale et objective sur les très graves allégations reçues. » Donc on parle potentiellement, entre les historiens, d'un débat pour un génocide, non pas Tutsi, mais un génocide Hutu, à l'est de la République démocratique du Congo, lors de la première guerre du Congo. En 1997, la guerre se finit et l'opposant à Mobutu, Kabila, s'installe au pouvoir. C'est donc le camp soutenu par le Rwanda qui gagne. Cependant, rapidement, les Congolais l'accusent d'être la marionnette de Kigali, Kigali étant la capitale du Rwanda. En réaction à cela, ils demandent à toutes les forces armées rwandaises de quitter le pays, ce qui va déclencher la deuxième guerre du Congo, qui durera de 1998 à 2002. Une première offensive est menée par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Donc le Rwanda s'est retourné contre le camp qui soutenait lors de la première guerre du Congo et cette fois il s'oppose à l'homme politique Kabila, qui est donc devenu président de la République démocratique du Congo. L'offensive est menée par une coalition menée donc par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi et elle va jusqu'à menacer le gouvernement pendant quelques semaines qui ne fut sauvé que par l'intervention rapide de plusieurs autres États africains tels que la Namibie, le Zimbabwe, le Tchad et l'Angola. Cette seconde guerre du Congo est donc une guerre régionale qui implique de nombreux acteurs africains ayant des intérêts souvent miniers et ethniques. Mais aussi, il y a l'ONU qui lance son opération MONUC, donc la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, avec 60 États et plus de 19 000 soldats participants au départ. Aujourd'hui, on est à plus de 23 000 soldats, ce qui normalement est la limite. L'ONU n'a pas le droit d'envoyer plus de 23 000 soldats lors d'une intervention militaire. Aujourd'hui, on est à plus de 23 000 soldats en République démocratique du Congo. Donc cette deuxième guerre se termine en 2003. Cependant, la fin de cette deuxième guerre du Congo a déclenché en 2004 la guerre au Kivu. Un territoire grand comme deux fois la Belgique qui oppose deux partis. Celui de Nkunda, qui défend l'ethnie Tutsi au Kivu avec sa milice et ses hommes. Et il est soutenu donc par l'armée régulière rwandaise, étant donné que le pouvoir rwandais est détenu par des Tutsis. Et il s'oppose donc à l'armée régulière de la République démocratique du Congo. C'est donc encore un conflit ethnique comme celui qui a déjà eu lieu au Rwanda, opposant Tutsi et Hutu. Cependant, certains prétendent que l'ethnie n'est qu'un prétexte pour se faire la guerre pour le contrôle des minerais. Donc le Kivu, c'est une région très riche en minerais, et donc notamment en cobalt, en coltan, tous ces minerais qui sont très importants aujourd'hui pour faire de l'électronique. Donc après des crimes de guerre atroces, Nkunda, donc le soutien de la minorité Tutsi du Kivu, est arrêté en 2009. Suite à des accords de paix, le conflit se calme un peu, mais il reprend en 2012 avec la création de la milice M23. M23, c'est une milice donc, qui s'est auto-créée et qui est héritée de Nkunda. M23, pour la, si vous ne savez pas, donc c'est la milice du 23 mars. Pourquoi le M23 ? Cette milice est rapidement diminuée, mais la région reste forcément le théâtre de conflits violents et les populations en souffrent toujours. En 2021, les hostilités reprennent fortement après que le M23 ait bloqué des convois humanitaires de l'ONU et assassiné l'ambassadeur d'Italie. La milice reprend du terrain tout en demandant officiellement qu'une chose, protéger les Tutsis du Kivu. Le M23 est la seule milice de la région qui demande de discuter. Contrairement à d'autres, car il y a d'autres groupes armés, notamment se revendiquant du djihad islamique au Kivu. En août 2022, un nouveau rapport de l'ONU confirme les liens entre le M23 et le Rwanda. Les populations locales subissant esclavage et viol accusent l'ONU d'inaction et le président de la RDC, Tshisekedi, demande à l'ONU de quitter la zone, ce qui est selon certains juste un prétexte pour faire oublier à la population l'incapacité de son gouvernement à agir au Kivu. Pour rapidement conclure, en fait, on est sur une situation très compliquée étant donné que les frontières ont été dessinées à la règle durant la conférence de Berlin et on a toujours ces problèmes en Afrique de mélange d'ethnies, Hutu et Tutsi, dans la région de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Et il semblerait que le M23 commet des exactions absolument atroces, donc des viols, soumet les enfants au travail dans les mines. Et il semblerait que la situation peut encore déraper, même redéraper, comme ça a déjà été le cas pendant la Deuxième Guerre du Congo, à un conflit régional, étant donné qu'on accuse également, par exemple, l'Ouganda de soutenir le M23. J'en ai terminé donc avec ma chronique sur la situation au Kivu. Et bon, bah, pour terminer et pour conclure cette émission, on va mettre un peu de soleil après l'horreur, après les suppositions de génocide, le viol et l'esclavage. On part en Martinique, avec du dancehall martiniquais, du créole, et avec Kalash et son presque dernier morceau, l'un de ses derniers morceaux, Socomon, qu'il a fait pour le carnaval en Martinique. Donc on va danser un peu, puis ça va être cool.
Et ben, au revoir à tous.
Oui, voilà, c'est le temps de dire au revoir, là.
Au mois prochain.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, Clément.
Bad gal, bad boy, 2024, nous pas débattre, puis bombo clat, c'est one shot, don't talk. Hey, Vigal 2, Socalé, Socomon. Montez à l'aimé, pas peur de toi, pas le banou, mauvais toi. Ces femmes-là disent, on sera assez vicky, ni. Pas coûter ces cochonnillons, non. 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 Pas toujours fait femme, compliment. Ok, yo, on l'a n'importe continent. Voyez, on paye un lait, polina. Ça tellement beau, yo, crier mes monuments. Cassé comme on déconfise, chasse. Au seul amour, les yens qui pétassent. Pas vu ni confier quand on bat moins pas au soin. Pour vim plaire à deux oreilles, mon petit bail. Miguel Lume, sans caler, sans comment. Montez en les mains, pas pète. Pas le banou, mauvais temps. Ces femmes-là disent, on sera assez vicky, ni. Pas coûter ces cochonnillons, non. 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 Manuela, Kataleya, Sakaleya, yo we, nous ka fonction sans yo ka parler mal, yo mal, kale jolo do pas yo pas sa parler bail, nous mal, nous ni tellement gogno de nous chata légal, mais quand, j'ai connu Boum Martini, nous savons que bon nous pas que timide, pas fait chaud montrer mes gens humides, on nous pompier nous pas qu'à compter minute, Miguel, Sakaleya, Sokoma, montrer en les mains, pas pète, pas parler bas nous. Mauvais temps, ces femmes-là disent, on sera assez vicky, ni. Pas coûter ces cochonnillons, non. 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 Bombo clad, one shot, don't talk. Yeah, you gotta do them bad, you know. I'm out.